Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Le phénomène dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'inflation pour le commun des mortels, pour vous ou pour moi. L'inflation, c'est la hausse des prix alimentaires chez les commerçants, c'est la hausse des prix du logement, ou encore celle du coût de la scolarité. En bref, c'est toujours quelque chose de très désagréable. C'est si désagréable apparemment que les marchés boursiers ces dernières semaines ont connu une grosse déprime parce que l'inflation menace ou menaçait de refaire son apparition. Aux États-Unis, rendez-vous compte, sur 12 mois, elle a atteint 2,1%. Et c'est considéré comme inquiétant. Alors, c'est à n'y rien comprendre parce que justement, on avait cru capter que les banquiers centraux, ces gens qui impriment les billets de banque, voulaient de l'inflation. Mais si l'inflation est nocive, pourquoi ces gens très savants, très puissants, très sages, pourquoi en veulent-ils ? L'inflation, est-ce un bien ou un mal ? Voilà en somme la question que nous allons poser tout au long de cette émission à nos deux invités. Bonjour Agnès Benassi-Kerré.
Bonjour.
Agnès Benassi-Kerré, vous étiez jusqu'à une date récente la présidente déléguée du CAE, le Centre d'analyse économique placé auprès du Premier ministre et qui publie des notes, donne des avis qui permettent d'orienter éventuellement les choix économiques gouvernementaux. Vous êtes enseignante et chercheuse au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeure associée à l'École d'économie de Paris, présidente de l'Association des économistes français. Et je termine en signalant que vous venez de publier la 4e édition d'un livre collectif qui est un best-seller dans son genre, qui s'appelle « Politique économique » aux éditions de Beuc. En face de vous, dans ce studio, Édouard Schall, bonjour.
Bonjour.
Édouard Schall, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur associé à l'École Polytechnique, et vous avez publié en 2016 aux éditions Economica un livre au titre, que je cite maintenant, « Fluctuations et politiques macroéconomiques ». Au cours de cette émission, bien sûr, comme d'habitude, des reportages. Nous irons dans la première partie de ce programme à Kyoto, au Japon, où nous attend Alexandre Barbe. Puis dans la deuxième partie, l'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, à Nairobi, au Kenya, rejoindre Sébastien Nemet. Et enfin à Caracas, où nous retrouverons notre correspondant Julien Gonzalez. Agnès Benassi-Kerré, la Banque Centrale Européenne cherche à atteindre pour la zone euro une marge de fluctuation de l'inflation autour de 2%. Elle n'y arrive pas. Pourquoi cette volonté d'avoir de l'inflation ? Et pourquoi cette difficulté à l'atteindre ?
Oui, alors ça peut surprendre, puisque dans le traité européen, ce qui est inscrit, c'est que la Banque Centrale Européenne doit rechercher la stabilité des prix. Donc vous pourriez dire, bah, la stabilité des prix, c'est des prix constants et donc 0%. Et alors pourquoi donc pas 0%, mais plutôt 2%? Il y a plusieurs raisons à cela. Une raison qui n'est pas toujours comprise, c'est que les chiffres de l'inflation vraisemblablement surestiment légèrement la vraie hausse des prix. On a beaucoup de mal, par exemple, à bien mesurer les effets de la qualité. Hein, pour faire simple, vous avez un ordinateur qui fait de plus en plus de choses, qui est de plus en plus puissant, et son prix reste constant. Et donc la vérité, c'est qu'en fait, son prix baisse. Donc il faut faire ce genre de correction. Les changements intervenus dans le commerce avec l'arrivée des commerçants en ligne qui changent les habitudes. Donc on a tendance à
vous voulez dire que c'est très difficile de
surestimer l'inflation. Donc là, quand on dit que l'inflation est à 1,5%, en fait elle est sans doute plus faible. La deuxième raison, c'est que une inflation trop faible pose des problèmes. L'économie est hétérogène. Donc vous avez des secteurs où les prix montent et d'autres secteurs en fait où les prix vont baisser. Si l'inflation moyenne est à 0%, c'est-à-dire certains secteurs voient les prix baisser. Et pour des entreprises dont les produits la valeur des produits baisse, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils peuvent pas baisser les salaires en nominal. Ils peuvent pas baisser la paye, couper la paye des employés. Et donc, ils ont d'énormes difficultés à survivre dans un environnement comme ça. Bon, il y a d'autres raisons, mais je vais peut-être laisser Édouard Schall les énumérer.
Oui, mais Édouard Schall, expliquez-nous pourquoi c'est si difficile de calculer vraiment l'inflation.
Bah, pour la raison que a dite Agnès Benassi-Kerré, donc je pense pas qu'il y ait grand chose à ajouter là-dessus. C'est l'évolution de la qualité qui font que les indices des prix font les, on a beaucoup de mal à mesurer l'évolution de la qualité. Alors, on compare pas des biens qui sont, qui sont homogènes dans le temps. Il y a une raison sur laquelle je voudrais revenir concernant cette cible d'inflation, en plus de celle qui vient d'être évoquée, et que les architectes de la zone euro n'avaient peut-être pas à l'esprit au début, c'est le risque de trappe à liquidité, c'est-à-dire la situation qu'on a connue aux États-Unis entre 2008 et 2015, qu'on connaît en zone euro. Alors, les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, mais on est maintenant, ils ne peuvent plus baisser plus. La trappe à liquidité, donc c'est la configuration macroéconomique dans laquelle la plupart des économies sont entrées à partir de la crise de 2008-2009, et dont on ne sort pas, qui est associée à une certaine paralysie de la politique monétaire. Les États-Unis en sont sortis en 2015, la zone euro pas encore, et on découvre que dans cette situation, c'est quand même pas mal d'avoir un petit peu d'inflation.
Revenez sur l'expression que vous avez employée, trappe à liquidité, ça veut dire quoi très précisément?
Donc trappe à liquidité, alors le terme est un peu technique, mais pour résumer, c'est une situation dans laquelle la Banque centrale souhaiterait relancer l'économie. Comment on relance l'économie? En baissant les taux d'intérêt. Mais le problème, c'est qu'on peut pas les descendre beaucoup en dessous d'un taux d'intérêt qui est de zéro, parce que à côté des crédits, il y a les billets de banque, et si on descend en dessous de zéro, tout le monde se met à stocker des billets de banque. Donc il y a une fuite vers les billets, il y a une crise monétaire, parce que les billets de banque ne rapportent pas moins de zéro en taux d'intérêt nominal. Donc le taux d'intérêt nominal dans l'économie peut pas être inférieur à zéro ou très inférieur à zéro. Et dans ce cas-là, ce qui peut stimuler l'économie en faisant baisser le taux d'intérêt réel, qui compte pour les décisions d'investissement, c'est l'inflation.
Si vous voulez, visuellement, la trappe à liquidité, c'est un grand trou dans l'économie. Il y a un grand trou. La Banque centrale jette des billets de banque, de la liquidité, et en crée de la monnaie à grande brassée, et il ne se passe rien.
Mais ça c'est ce que la Banque centrale européenne a fait ces dernières années.
Ça tombe dans un trou, et l'économie ne réagit pas. Pourquoi elle ne réagit pas? Pour la raison qui vient d'être indiquée, c'est que le taux d'intérêt ne peut pas tellement baisser en dessous de zéro, parce que si on vous prend 1% tous les ans sur votre compte courant, vous allez considérer que c'est une taxe, et vous allez chercher à échapper à ça en accumulant peut-être des billets sous votre matelas, parce qu'au moins les billets, ils vont pas être taxés.
Mais donc, c'est ce qui explique que l'échec ou le relatif échec de la politique d'assouplissement quantitatif de la Banque Centrale Européenne?
Non, ça veut dire que il est dangereux pour une banque centrale d'avoir un objectif d'inflation qui est trop bas, parce que au moindre pépin, eh bien, elle va tomber dans cette trappe. Et donc, il vaut mieux se positionner un peu au-dessus, comme ça, on peut avoir une marge de sécurité pour faire face aux aléas de l'économie.
Mais est-ce que ça veut dire que quand la Banque Centrale Européenne fixe un niveau minimum de 2% ou maximum de 2% d'inflation, c'est élevé?
2%, non. Aujourd'hui, les grandes banques centrales dans le monde ont plutôt convergé sur cette norme de 2%. L'inflation, idéalement, devrait être un peu plus élevée dans les pays émergents et les pays en développement, parce que y a un effet qui est tout à fait naturel de convergence. Et cette convergence entraîne une hausse des prix dans les secteurs traditionnels et les secteurs de services. Et tout ça est très sain. Alors par ailleurs, il y a aussi un argument qui n'a pas encore été donné, qui est le fait que les économies avancées et émergentes et en développement, enfin toutes les économies ont tendance à avoir de la dette. Donc c'est de la dette publique, mais c'est aussi de la dette privée. Et lorsque vous endettez à taux d'intérêt fixe, eh bien, que l'inflation devient négative, par exemple, et vous aurez de plus en plus de mal à rembourser l'emprunt, parce que votre salaire va baisser. Et alors les remboursements, eux, sont fixes. Donc, dans une situation de sortie de crise où il y a de la dette partout, elle a beaucoup augmenté, et il vaut mieux avoir de l'inflation, parce que ça va permettre, dans la mesure où les dettes sont à taux fixe, eh ben de rembourser plus facilement la dette et qu'elle s'accumule moins.
Mais il y a eu une époque, par exemple en France, où on connaissait cette situation, où il y avait une inflation assez forte jusque dans les années 70-80, et les épargnants, les emprunteurs plutôt, ils trouvaient leur avantage.
Alors les épargnants, pas trop,
pas
non, mais c'est plutôt
les emprunteurs.
Les emprunteurs, tout à fait. Et en fait, dans les années 70 jusqu'au début des années 80, il y a une sorte de miracle où il y avait beaucoup de déficit public et ça se voyait pas dans la dette, parce que les taux d'intérêt auxquels s'empruntait l'État étaient plus bas que le taux d'inflation. Donc, si vous voyez, les recettes fiscales sont indexées sur l'inflation. Vous regardez la TVA. La TVA est indexée sur l'inflation. Si les prix à la consommation augmentent, automatiquement, les recettes de TVA augmentent. Et donc, pour l'État, c'était tout bénéfice. Emprunté à un certain taux d'intérêt qui, certes, était à deux chiffres à l'époque, hein, mais avec une inflation encore plus élevée. Et donc, l'année d'après, eh bien, il a tout ce qu'il faut pour payer les intérêts.
Alors, il y a un autre pays où l'inflation manque cruellement, où la Banque centrale essaye de la susciter, c'est le Japon. C'est un des problèmes majeurs auxquels fait face le gouvernement nippon. En 2017, les prix hors denrées alimentaires ont augmenté de 0,5% par rapport à 2016. Une première hausse depuis 2 ans, mais qui reste loin de l'objectif de 2%, dont on a déjà parlé, fixé par la Banque du Japon. D'autant que cette inflation s'explique surtout par la hausse du prix du baril du brut, qui influe évidemment sur nombre de produits. Si on écarte à la fois les denrées alimentaires et l'énergie, l'inflation est presque à 0,01%. Alors comment les consommateurs et les commerçants japonais ressentent-ils cette réalité? Pourquoi les prix n'augmentent-ils pas comme le voudrait le gouvernement? C'est un reportage éco-dissieco d'ailleurs, signé Alexandre Barbe à Kyoto.
Au marché du centre-ville de Kyoto, les commerçants prennent leur plus belle voie pour appâter le chaland. Mais les Japonais n'ont pas forcément la tête à dépenser sans compter. Si l'inflation est très légère, elle pèse lourd sur certains ménages. C'est le sentiment de Nami, de retour au Japon après une expatriation au Canada.
Je trouve que le coût de la vie est élevé au Japon. Le loyer, l'énergie, les transports. J'ai l'impression que tout ce qu'il faut pour vivre coûte de plus en plus cher. Après plusieurs années à l'étranger, je me suis rendu compte qu'il est plus difficile de mettre de l'argent de côté au Japon, car les salaires n'augmentent pas. Plutôt qu'une baisse des prix, il faudrait augmenter les salaires et revoir le système des transports en commun.
Et si les salaires venaient à augmenter, comme le voudrait le Premier ministre Abe, Nami et son mari savent déjà ce qu'ils feraient du surplus.
On mettrait de l'argent de côté, ça nous permettrait d'avoir un peu de marge pour consommer plus tard. Donc oui, je pense qu'il vaudrait mieux épargner.
Pour son mari Kiyo, cuisinier, c'est aussi un problème de temps disponible.
On n'a simplement pas le temps de consommer. Quand vous travaillez du matin au soir, 6 jours, voire 7 jours par semaine, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre votre argent de côté.
Ces réticences des consommateurs japonais, les commerçants les comprennent bien. Masaru possède un magasin de prêt-à-porter. Ce septuagénaire est conscient que le vieillissement de la population entraîne une hausse des dépenses sociales.
Les gens doivent payer leur assurance santé, leur retraite, des dépenses qui augmentent alors que les salaires ne suivent pas. Il faut dire que les grandes entreprises souffrent encore des séquelles de la bulle des années 90. Donc elles veulent amasser autant qu'elles peuvent. En tant que commerçant, on doit baisser les prix pour vendre plus. Et c'est comme ça que certains prix à la consommation diminuent. Le gouvernement veut une inflation à 2%, mais les gens ne sont pas vraiment dans cette dynamique. L'objectif sera difficile à atteindre, je pense.
En attendant, la Banque du Japon poursuit sa politique d'assouplissement monétaire pour tirer l'inflation vers le haut. Une stratégie mise en place depuis 5 ans, sans grand succès pour le moment.
Un reportage signé Alexandre Barba à Kyoto, Agnès Benassikere, c'est très emblématique de la situation de l'inflation au niveau international dans les pays développés.
Voilà, parfaitement. Il y a deux éléments qui sont, trois éléments qui sont clés. Il y a la question du prix du pétrole qu'on va mettre de côté, mais la question des salaires et de l'influence des salaires sur les prix. Alors d'abord les salaires. Pourquoi les salaires n'augmentent pas? Et ça c'est vraiment le cœur de la faible inflation aujourd'hui. Et c'est le cœur de la résurgence qu'on peut voir éventuellement aux États-Unis. Pourquoi les salaires n'augmentent pas au Japon? Alors, il y a eu plusieurs explications qui peuvent être données. Une des explications qui a été donnée, c'est notamment le fait que les entreprises en fait donnent du bien-être à leurs salariés en réduisant le temps de travail, qui est énorme au Japon traditionnellement, et en disant il y a une demande pour mieux combiner la vie professionnelle et la vie privée, et donc les salariés mettent ça au-dessus des hausses de salaire, un peu comme en France finalement
avec les 35 heures.
Où aujourd'hui on voit qu'il y a une augmentation des conversions de CDD en CDI et que les gens finalement demandent plus un CDI qu'une hausse de salaire. Donc il y a ce genre d'éléments qui jouent. Ensuite, bon, il y a historiquement, partout dans le monde, on voit que le chômage, qui est très faible au Japon, a moins d'influence qu'avant sur les salaires. Donc ça, c'est aussi lié à la perte d'influence des syndicats.
Expliquez-nous ça. Quel est le lien entre chômage et inflation?
Ben normalement, quand il y a beaucoup de chômage, si vous voulez, les salariés sont pas en position de force pour négocier une hausse de salaire.
Oui, mais comme le chômage est faible,
Et voilà, exactement. Et donc la grosse question, c'est dans un certain nombre de pays, pas la France, mais dans d'autres pays, le chômage est extrêmement bas. Aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, et néanmoins les salaires n'augmentent pas.
C'est un mystère.
Donc c'est un mystère.
C'est-à-dire que vous, économiste Édouard Schall, vous n'êtes pas en mesure, vous n'avez pas résolu cette équation chômage faible, haut niveau d'emploi et pas d'inflation.
C'est une question qui est un peu compliquée. C'est lié au fonctionnement des institutions du marché du travail qui ont peut-être évolué. C'est vrai qu'avant, autrefois, on craignait cette boucle prix-salaire où les salariés exigeaient une compensation salariale suite à une élévation de l'inflation pour conserver leur pouvoir d'achat. Les entreprises répercutaient cette hausse de salaire sur les prix et donc ça entraînait cette spirale à la hausse. Et aujourd'hui, il y a très peu de réponses de l'inflation des coûts salariaux au niveau de chômage. Donc le chômage, c'est un indicateur de la plus ou moins forte demande agrégée qu'il y a dans une économie. Donc c'est vrai, si on prend d'autres indicateurs, par exemple la différence entre le PIB, donc la production, et le PIB potentiel, c'est-à-dire le niveau de production qu'on pourrait atteindre au regard de la technologie, etc.
Est-ce que la pyramide des âges peut expliquer cette absence d'inflation, Agnès Benassikeré, dans un pays comme le Japon,
oui.
qui est assez vieux, où la population est assez âgée, où il y a assez peu d'immigration, très peu même. C'était signalé dans le reportage d'Alexandre Barbe, l'âge de la population. Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'inflation ou l'absence d'inflation?
Oui, alors c'est un impact qui est mesuré empiriquement et l'explication a été donnée dans le reportage où on voit que finalement quand une population est plus âgée, elle épargne davantage, même d'ailleurs quand elle devient très âgée, ce qui est assez surprenant. Et ce qui veut dire que si on augmente, même si les salaires augmentent, et ça a été dit dans le reportage, les personnes vont épargner le supplément de revenus. Et donc, il n'y aura pas cet effet d'enclenchement d'une hausse de la demande et qui fera augmenter les prix. Ça va s'arrêter, hausse de salaire, et puis comme ils ne font rien finalement de ces revenus, eh bien, ça n'entraîne pas d'une hausse de prix.
Édouard Schall, il y a un autre mystère, je crois. L'économie mondiale se porte bien, les échanges commerciaux sont en pleine augmentation. En Chine ou aux États-Unis, la croissance est forte. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'effet mécanique d'entraînement, puisque les produits circulent, se vendent bien? Pourquoi est-ce que les prix ne montent pas? Est-ce que c'est un effet d'un niveau relativement faible des matières premières, du pétrole? Est-ce que il y a une disparition des revendications sociales de manière un peu générale qui expliquerait que, bien d'abord, les coûts de production n'augmentent pas?
Alors bon, il y a certains facteurs évidemment qui affectent les coûts de production. Mais il y a quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce qui compte pour les banquiers centraux, pour les entreprises lorsqu'elles fixent leur prix, ce sont les anticipations d'inflation, plus que l'inflation réalisée. L'inflation réalisée, elle peut varier aujourd'hui parce que il y a des chocs imprévus sur les prix des matières premières, sur les prix de l'énergie, sur il peut y avoir un certain nombre de perturbations économiques qui provoquent des variations de l'inflation. Mais ce qui est dangereux pour la banque centrale, c'est la perte du contrôle des anticipations d'inflation qui vont ancrer la tendance des prix et non pas cette variabilité de court terme. Et une des raisons pour lesquelles l'inflation reste chroniquement faible en tendance aujourd'hui, c'est que les anticipations d'inflation bougent peu, notamment en zone euro par exemple. Alors aux États-Unis c'est en train de bouger, mais enfin on
en parlera tout à l'heure.
On est autour de 2% à horizon pluriannuel, donc on n'est pas non plus dans des anticipations d'inflation très fortes. En zone euro, on est les anticipations d'inflation sont inférieures à la cible à horizon pluriannuel. Et je crois que le contexte macroéconomique qui explique cela, c'est que on n'est pas loin, même pour des économies comme les États-Unis qui sont sorties de la trappe à liquidité.
Vous parliez tout à l'heure.
Ouais. On n'en est jamais très loin. Et la zone euro pourrait en ressortir prochainement, mais on n'y sera jamais très loin. Et la trappe à liquidité, c'est une situation par nature déflationniste ou désinflationniste. Et donc, à l'avenir, les entreprises, les banquiers centraux s'habituent à un monde où régulièrement il va y avoir des tendances déflationnistes qui vont s'exercer. Elles incorporent ça dans leurs anticipations d'inflation. Et du coup, l'inflation aujourd'hui reste relativement stable.
Nous sommes au terme de la première partie de cette émission consacrée à l'inflation, avec l'introduction d'un mot sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, déflation, désinflation. Nous retrouvons nos invités Agnès Benassikeré et Édouard Schall dans quelques minutes après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
We'll be right back.
d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale, aujourd'hui consacrée au phénomène de l'inflation, est-ce un bien ou un mal, avec deux invités, Agnès Benassi-Kéré, professeure d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur et chercheur associé à l'école d'économie de Paris, et Édouard Chal, directeur de recherche au CNRS, professeur associé à l'école polytechnique. Au cours de la première partie de l'émission, nous avons parlé Europe, nous avons parlé Japon, deux zones où l'inflation est très faible, où les banques centrales et les gouvernements aspire sinon à un peu d'inflation, à un peu d'anticipation d'inflation, nous avez-vous expliqué, Édouard Chal, deux zones dans lesquelles les pouvoirs monétaires voudraient donc contribuer à ce un peu d'inflation. Je disais en démarrant l'émission tout à l'heure, en présentant généralement ce dont nous allions parler, que la perspective de ce un peu d'inflation était paradoxalement une des raisons qui expliquait la chute brutale des places boursières américaines et européennes ces dernières semaines. C'est assez mystérieux pour le béotien Édouard Chal. Quel est le lien entre la valeur des entreprises, donc qui est cotée en bourse, et cette menace ou cette apparition d'inflation?
Lorsque l'inflation revient, alors là, il faut pas non plus exagérer ce risque, mais enfin, c'est vrai que aux États-Unis, on commence à craindre un retour de l'inflation, et donc on anticipe une politique monétaire plus restrictive, de hausse des taux d'intérêt, qui mécaniquement renforce les obligations contre l'intérêt des obligations contre les
actions.
Et donc des réallocations de portefeuille au détriment des actions, en anticipation de cette politique monétaire restrictive.
C'est un mouvement purement d'arbitrage des
Absolument.
Gérants de portefeuille. Ça n'a aucun lien avec l'économie réelle. Agnès Benassi.
Alors, il y a un mouvement de bascule entre les taux d'intérêt et le prix des actifs qui est mécanique. Qui peut être compris de manière suivante. Aujourd'hui, vous achetez un bon du Trésor qui vaut 100 euros. Donc, vous l'achetez pour 100 euros. Et il porte un taux d'intérêt, disons, de 1%. D'accord ? Demain, l'année prochaine, les taux d'intérêt ont monté de 1 à 2%. Et vous voulez vendre votre obligation. Et vous n'allez pas trouver de clients puisque les taux d'intérêt sont à 2%. Donc les gens ont plutôt intérêt à acheter des nouvelles obligations qui sont à 2%. Donc votre obligation à 1%, il va falloir la brader si vous voulez trouver un client.
Donc elle va valoir moins de 100 euros.
Elle va valoir moins. Et c'est pour ça qu'on a ce mouvement de balançoire entre les taux d'intérêt et le prix des actifs. Alors c'est mécanique pour les obligations. C'est moins direct pour les entreprises, pour les actions d'entreprises. Pourquoi ? Eh bien parce que la rémunération est elle-même indexée sur l'inflation pour les entreprises. Si vous voyez, les profits, grosso modo, sont indexés sur l'inflation. Et comme les dividendes, donc la rémunération des actions, est indexée plus ou moins sur l'inflation. Mais il y a quand même cet effet de bascule qui joue.
Est-ce que les États-Unis ont une longue habitude de période inflationniste ?
Alors, les États-Unis ont connu, comme l'Europe, une période d'inflation à deux chiffres, donc dans les années 70, hein, les chocs pétroliers, etc. Et ce qui est remarquable, ce qui est un peu angoissant aussi, c'est que l'inflation a disparu à peu près partout dans le monde. C'est-à-dire, si vous cherchez, en 2017, les pays qui avaient de l'inflation à deux chiffres, il y en a très peu.
Il y en a quand même quelques-uns.
Il y en a quelques-uns, il y a le Yémen, l'Égypte, l'Ukraine, le Nigeria...
Et même à quatre chiffres.
Même alors il y a des cas pathologiques.
Tout à l'heure du
Mais même le Zimbabwe qui a connu une période d'inflation en 2009 à plusieurs milliers de millions de pourcents est revenu dans les clous. Donc c'est pas du tout comme dans les années 70-80 où le problème majeur des économies émergentes et en développement c'était l'inflation avec la dette aussi mais l'inflation. Là, maintenant, la plupart des pays, même on pourrait dire que l'inflation est trop basse. Si vous regardez un pays comme le Sénégal, l'inflation est très basse au Sénégal.
Édouard Chal, vous parliez de déflation ou désinflation. C'est le mot qui caractérise la situation actuelle ?
Aux États-Unis, l'inflation réalisée et les anticipations d'inflation sont à peu près à la cible affichée des 2%. Donc, on ne peut pas parler de déflation. En Europe, il y a encore des tendances désinflationnistes et on peut espérer qu'on va en sortir. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est les anticipations d'inflation plus que l'inflation réalisée elle-même. Et il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. On a parlé tout à l'heure du taux de chômage. Pourquoi est-ce que le taux de chômage, faible n'influence pas l'inflation? Dans le cas des États-Unis, on a un taux de chômage très faible, mais on a un taux d'activité qui est faible également. Donc,
c'est-à-dire
qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la population en âge de travailler, mais qui sont ni chômeurs ni dans l'emploi. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe dans toutes les récessions. Hein. C'est ce qu'on appelle les chômeurs découragés. Aux États-Unis, il y a une cyclicité assez forte de ces chômeurs découragés. Et donc, le taux de chômage, on les voit pas dans le chômage. Il y a un certain nombre d'individus qu'on voit pas dans le chômage. L'armée de réserve, elle est peut-être pas dans le chômage, mais elle est dans cette inactivité. Et donc, il y a peut-être encore de la marge pour que les entreprises américaines embauchent sans forcément qu'il y ait une pression à la hausse sur les salaires. Et le problème, c'est que ça, c'est extrêmement difficile à mesurer. L'étendue de cette armée de réserve est difficile à mesurer. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur les véritables tensions sur le marché du travail aux États-Unis.
Il y a un peu le même phénomène en Europe. Il y a un travail de la Banque Centrale Européenne qui a montré que si on prend une définition large du chômage où on incorpore des personnes qui sont en temps partiel contraint, les personnes qui sont en emploi précaire, eh bien, qui sont en stage, on se rend compte que le lien entre sous-activité, disons, et hausse des salaires est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que le fait que le taux de chômage est beaucoup baissé dans la plupart des pays européens, et donc on est surpris de ne pas voir les salaires accélérer, et c'est en partie lié, selon ces travaux, à ce qu'on appelle le halo, en France on appelle ça le halo du chômage. Donc ce sont les personnes qui ne sont pas réellement au chômage, mais qui ne sont pas dans une situation satisfaisante. Et donc ça veut dire que elle pèse encore sur les hausses de salaire, parce que les entreprises sont dans une position où elles disent à un employé qui demande une hausse de salaire, bah écoutez, à côté j'ai quelqu'un qui serait ravi de travailler à plein temps pour ce salaire. Et donc on voit bien que les salaires peuvent pas accélérer dans ces conditions.
Mais en même temps, par exemple en France, on nous dit qu'il y a un gros problème de formation et donc que les entreprises ont du mal à recruter.
Voilà. Ça, oui. C'est très important. C'est la grosse question en France. Hein. C'est spécifique de la France. On a un énorme problème de qualification. On voit que dès que la croissance repart, immédiatement, les entreprises se disent « Ouh là là, au secours, on n'arrive pas à trouver les compétences ». Si elles arrivent pas à trouver les compétences, ça veut dire que même avec un taux de chômage très élevé, bon, il baisse, mais il est quand même très élevé en France, on peut avoir des tensions sur les salaires simplement parce que, eh bien, les personnes qui sont qualifiées, ben, vont jouer à plein hein, leur pouvoir de négociation, puisque les employeurs n'arrivent pas à les remplacer par des gens moins chers.
Édouard Charles, c'est un problème qu'on peut retrouver ailleurs, ça? Ou c'est vraiment spécifique à l'Hexagone, à la France?
Si on prend une perspective longue sur les banques centrales, et qui peut-être peut expliquer ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a peu d'inflation dans le monde maintenant, y compris dans les pays en développement, c'est que les banques centrales sont mieux conscientes de leur rôle, de ce qu'elles peuvent faire et de ce qu'elles doivent faire. Donc, dans les années 70, les banquiers centraux pensaient encore qu'on pouvait durablement influencer le niveau de l'activité, mais que par contre l'inflation leur échappait en partie. Maintenant, on sait que c'est le contraire qui est vrai. On sait que les banquiers centraux n'ont pas de contrôle durable sur le niveau de l'activité. Par contre, elles peuvent assez efficacement contrôler l'inflation lorsqu'on n'est pas dans des situations pathologiques comme la trappe à liquidité. Et donc en principe, donc on peut toujours dire il y a des facteurs qui influencent les coûts. Les prix du pétrole, les prix de toutes les matières premières. Mais au bout du compte, l'inflation, c'est toujours la manifestation d'un déséquilibre entre l'offre agrégée et la demande agrégée.
Qu'est-ce que vous appelez offre agrégée et demande
l'offre agrégée? L'offre agrégée, pour résumer, c'est la capacité d'une économie, la capacité structurelle liée à la qualification de ses travailleurs, liée au progrès technique, sa capacité structurelle à produire. Et la demande agrégée, c'est la demande de consommation, la demande d'investissement par les entreprises, etc. Et si la demande agrégée est trop élevée, il y a des tensions sur les facteurs de production qui vont faire augmenter les coûts et qui vont faire augmenter l'inflation. Et inversement, en phase déflationniste, si la demande agrégée est trop faible. Et ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les banques centrales peuvent si elles sont efficaces dans leur communication et dans leur stratégie, bien, assez bien contrôler la demande agrégée en temps normal. Et donc, voilà, ça explique aussi pourquoi est-ce que les situations de perte de contrôle de l'inflation sont moins fréquentes aujourd'hui. Je crois que les banques centrales ont beaucoup mieux, y compris dans les pays en voie de développement, sont mieux conscientes de cette...
Alors voilà un exemple, le Kenya qui ne connaît pas le plein emploi pourtant, mais où les prix montent un peu. Le pays avait subi une inflation assez forte en début d'année dernière, passant de presque 7 à 12% au mois d'avril. L'État avait ensuite annoncé des subventions, notamment pour la farine de maïs, un des principaux aliments de la population kényane, et l'inflation était redescendue à 4,5%. Année d'instabilité qui a affecté l'économie et les portefeuilles, puisqu'il y a eu aussi beaucoup d'instabilité politique. Un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Sébastien Lemaitre à Nairobi.
Qu'ils vendent des fruits, des légumes, de la viande ou du poisson, au City Market de Nairobi, tous les commerçants ont le même discours. Les prix montent et les marges baissent. Carole Kariuki vend des primeurs depuis 3 ans.
En ce moment, c'est très cher et c'est parfois dur de trouver certains fruits. On les achète à des agriculteurs qui viennent nous les vendre ici. Par exemple, les pommes viennent d'Afrique du Sud et d'Égypte. On me les vend à 4000 shillings la boîte, alors qu'avant c'était 3200. Ça fait une grosse différence. Les clients se plaignent. Ils voient que les prix augmentent, alors ils n'achètent pas et mon activité en souffre. Donc je dois faire attention. Les clients vont fuir et je ne ferai plus de bénéfices si je vends trop cher.
Comme une grande partie de la région, le Kenya subit une longue période de sécheresse. S'ajoute depuis août dernier une crise politique et des violences électorales. De quoi là encore faire flamber les prix, comme l'explique Joseph Makombi, vendeur de viande depuis plus de 10 ans.
L'an dernier, le kilo de bœuf valait 400 shillings. On est passé à 500. Les grossistes ont des ranchs. À cause de la sécheresse, il n'y a plus assez de pâturage pour les animaux. Et puis, aussi, nous avons eu une très longue période électorale. Encore aujourd'hui, la situation n'est pas normalisée. Parfois aussi, la demande est forte et l'offre ne suit pas. Là, les prix montent. Dans ces périodes-là, les clients n'achètent plus de viande. Ils prennent des fruits, des légumes. Certains clients négocient, mais d'autres se détournent de la viande.
À la station d'essence Petrol Oil Kenya, il est loin le temps où Elias Modiné, le gérant, vendait le litre de gasoil à 37 shillings. Ces prix affichent maintenant 94 shillings pour les véhicules diesel et 105 pour l'essence.
Ça fluctue, c'est pour ça que le gouvernement a créé une autorité de régulation des prix. Donc, si cette institution décide d'augmenter les prix, alors toutes les pompes doivent suivre. Donc, c'est aux stations de trouver des moyens pour garder les clients.
Pour garder sa clientèle, Elias Modiné a donc instauré un système de fidélité.
Pour les clients qui payent le diesel, notamment par cash, tout de suite, on leur fait une ristourne. On leur fait payer juste au-dessus du prix d'achat. Ou alors, on leur offre un article de sport. Et ça, ils l'obtiennent s'ils viennent plusieurs fois par mois. Comme ça, ils continueront à venir et continueront à avoir confiance en nous. On a des clients qui payent à crédit. Ils peuvent avoir des rabais, mais dans ce cas, c'est la direction qui décide. Mais ceux qui règlent en cash, on leur fait une réduction plus facilement. Un shilling de moins par litre.
La situation ne devrait pas s'arranger. Avec la fin des subventions, l'inflation est repartie à la hausse le mois dernier. La crise politique n'est pas terminée et les prochaines pluies n'arriveront pas avant avril.
Un reportage signé Sébastien Lemaitre à Nairobi. C'est Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons donc de l'inflation avec deux invités, Édouard Chal, professeur associé à l'École Polytechnique, directeur de recherche CNRS, et Agnès Benassi-Kéré, professeur à l'Université Paris, un Panthéon-Sorbonne, et associé à l'École d'économie de Paris. Je vous voyais prendre des notes, Agnès Benassi-Kéré. Bon, je sais que le Kenya, c'est pas un pays que vous connaissez, mais quand même, c'est parlant.
C'est parlant. Il y a deux éléments qui sont parlants. Le premier, c'est l'impact des aléas climatiques. Les prix bougent en grande partie à cause des aléas climatiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que les banques centrales souvent calculent un indice, enfin un taux d'inflation hors matières premières et produits alimentaires parce que c'est trop volatile et donc ça ne donne pas beaucoup d'indications sur l'inflation sur longue période. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu un malentendu terrible en 2002 lorsque les billets et pièces en euros ont été introduits. Tout le monde a pensé que l'euro faisait monter les prix. Et en fait, c'était concomitant avec un aléa climatique qui a fait monter le prix des légumes, notamment, sur les marchés européens. Et donc, les gens ont fait le lien de cause à effet, mais en fait, c'était une cause autre. L'autre élément qui est important à avoir en tête, c'est qu'en Afrique, on a plusieurs types de pays. On parlait du Sénégal tout à l'heure. Le Sénégal est membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et à ce titre, a une monnaie qui est le franc CFA, qui est ancrée sur l'euro. L'euro ayant une faible inflation, finalement, ça se répercute automatiquement sur le Sénégal et les autres pays de l'UEMOA. Et donc ça contraste avec d'autres pays comme le Kenya qui n'ont pas cet ancrage et qui font qu'il y a plus d'inflation et c'est compensé par un affaiblissement de la valeur de la monnaie en monnaie étrangère. Ce qui veut dire aussi que, par exemple, là, on parlait des pommes, je sais plus, qui étaient importées d'Afrique du Sud, éventuellement.
Ou d'Égypte, oui.
En fait, quand la monnaie se déprécie, ou d'Égypte, voilà, c'est ça, si la monnaie se déprécie, bien, naturellement, les pommes vont valoir plus cher et ça va nourrir l'inflation. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les pays qui sont dans le franc CFA ont tendance à avoir une inflation plus basse, en moyenne, que les pays qui n'y sont pas.
Édouard Charles, l'inflation, est-ce que ça peut s'importer?
Absolument. Ça peut s'importer. Donc, c'est influencé par tous les coûts de production, par exemple. L'inflation, ça résulte, c'est la résultante d'une répercussion sur les prix de vente des coûts de production. Alors, il peut aussi y avoir des variations dans le pouvoir de marché des entreprises, mais en général, ça reflète des coûts. Donc, toutes les variations des coûts qui sont liées potentiellement à des fluctuations du taux de change engendre ce phénomène d'inflation.
Sébastien Lemaitre, dans son reportage à Nairobi, évoquait aussi, ou les interlocuteurs qu'il avait à son micro évoquaient la situation politique, l'instabilité politique. Est-ce que il peut y avoir un lien entre l'instabilité politique et la hausse des prix, bien sûr?
Alors oui, bien sûr, il y a aussi la question de la mesure de l'inflation et de la confiance qu'a la population dans la mesure de l'inflation. C'est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que l'Institut statistique est suffisamment indépendant pour pouvoir produire un indice de prix dans lequel la population va croire? Et ça, c'est complètement clé. Et un pays, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre de pays ont préféré ancrer leur monnaie sur monnaie étrangère plutôt que sur leur propre politique monétaire, parce que, à la fois, l'Institut statistique n'était pas suffisamment crédible, du moins à un moment donné, et la Banque centrale également. Donc quand on a un problème de crédibilité lié à une fragmentation politique, à des tas d'événements qui peuvent se produire, ça peut être intéressant. Transitoirement, du moins, d'ancrer la monnaie sur une monnaie étrangère. C'est ce qu'ont fait les pays d'Europe centrale et orientale, en fait, au moment de la transition. Lorsque, d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec une monnaie. Alors, il n'y a pas de crédibilité monétaire accumulée, puisque la Banque centrale était toute neuve. Et donc, transitoirement, la stratégie, ça a été d'ancrer leur monnaie sur des monnaies étrangères, et puis ensuite, évidemment, récupérer la souveraineté monétaire pour voler de leurs propres ailes.
C'est ce qu'a fait le Zimbabwe auquel vous faisiez allusion.
Alors, le Zimbabwe, donc, a tué son hyperinflation en dollarisant. Alors ça, c'est aussi ce qu'avait fait l'Équateur quelques années avant. C'est une solution hyper efficace dans le court terme. Donc vous avez une inflation de plusieurs milliers de pourcents, vous abandonnez la monnaie nationale que de toute façon plus personne ne veut parce qu'elle ne vaut plus rien, et vous adoptez carrément une monnaie étrangère, donc le dollar en général, mais
ou
ça peut être une autre
monnaie.
Voilà, ou plusieurs monnaies étrangères éventuellement. Et alors ça, c'est un abandon de souveraineté monétaire. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, l'Équateur, qui a adopté le dollar, ne siège pas, il n'y a pas de représentant de l'Équateur aux réunions de la Réserve fédérale américaine. Dans le court terme, c'est très efficace pour supprimer l'inflation. Ça pose problème dans la durée parce que la politique monétaire américaine n'a aucune raison d'être adaptée à l'économie équatorienne ou là maintenant au Zimbabwe. Donc c'est une solution, disons, transitoire. Et après, la question, c'est comment je reconstruis une politique monétaire nationale une fois que j'ai éliminé l'inflation, comment le refaire, comment soit crédible, il faut avoir une banque centrale indépendante du gouvernement, Donc, nommé pour une longue période, il faut que les gens le croient. Donc, il y a beaucoup de conditions politiques.
Alors, cette problématique que vous évoquez pourrait correspondre à ce qui se passe au Venezuela, pays qui connaît une inflation galopante. L'an dernier, le FMI estimait que la hausse des prix avait dépassé la barre des 2400%. Cette année, le FMI prévoit 13 000%. Une situation qui se répercute, bien sûr, sur le quotidien des Vénézuéliens. Depuis la dernière hausse de 40% au 1er janvier 2018, le salaire minimum atteint, si on y ajoute les bons d'alimentation, la somme de 800 000 bolivars, mais ça fait simplement 25 euros au taux de change officiel et moins de 3 euros au taux de change parallèle, qui est celui qui a vraiment cours. Le Venezuela, le pays avec l'inflation la plus forte au monde, c'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Julien Gonzalez à Caracas.
Résident du 23 de Enero, bastion chaviste remporté par l'opposition lors des dernières législatives, Reinaldo Rangel sort du marché de Catia, un quartier pauvre à l'ouest de Caracas. Il a dépensé 1 900 000 bolivars, un peu plus de 2 mois de salaire minimum, et il est loin d'avoir de quoi tenir pour les 2 prochaines semaines.
J'ai acheté 2 paquets de riz, un carton d'une vingtaine d'œufs et une mortadelle. Voilà exactement ce que j'ai, rien de plus. Acheter de la viande aujourd'hui, c'est un luxe. Et dans mon frigo, il n'y a rien en ce moment. Il n'y a aucun salaire qui peut supporter cette inflation. Les prix de la nourriture augmentent tous les jours. Les commerçants pratiquent des prix abusifs, ils exagèrent. Et ils en profitent en disant que c'est à cause de l'inflation. Ici, on produit des pommes de terre, des oignons, on a de la bonne viande, alors pourquoi ces prix? J'ai la rage car je ne vois aucune solution.
Face à ces accusations, Simone Bayot explique qu'il est difficile d'être un petit commerçant. La faute, selon lui, notamment aux bachaqueros, ces vendeurs informels qui achètent des produits à des prix régulés et les revendent à des prix exorbitants. Gérant d'un petit bar-restaurant dans un quartier commerçant de la capitale, il est en train de modifier les prix sur les menus.
Que ce soit le poulet, la viande, le poisson, nos fournisseurs augmentent les prix tous les 8 jours. Nous sommes obligés de modifier les prix constamment parce que sinon, il faudra mettre la clé sous la porte. On gagne tout juste de quoi couvrir nos dépenses pour maintenir notre commerce. Nous, les commerçants, nous ne sommes pas en train de voler les gens. Ni les gouvernements, ni les chefs d'entreprise n'agissent contre l'inflation. Surtout, le problème, c'est qu'il faut tout acheter au bachaqueros. Le sucre à un prix régulé est introuvable. Il faut l'acheter au bachaqueros qui te le revendent 3 à 4 fois plus cher. C'est un cercle vicieux.
Des prix qui grimpent donc constamment en flèche et qui ruinent totalement le pouvoir d'achat des Vénézuéliens. Certains, comme Estefania Quintero, à la fois employée d'un cybercafé, baby-sitteuse et secrétaire d'un cabinet de dentiste, essaie tant bien que mal d'économiser, mais pas en bolivar.
J'achète des dollars par petits montants. La dernière fois, c'était le mois dernier et j'ai acheté 10 dollars avec mes bolivars. Pas plus, car je n'ai pas les moyens d'avoir plus de bolivars et donc de dollars. Presque tout ce que tu veux acheter est au prix du dollar. Donc pour moi, le dollar, c'est une valeur refuge parce que l'inflation est beaucoup trop forte. Ça me permet de faire face à n'importe quelle urgence, surtout pour des frais de santé et la nourriture. Ça me permet de survivre face à la situation économique.
Alors que le président Maduro répète que l'inflation est causée par la guerre économique menée principalement par l'opposition vénézuélienne et les États-Unis, les économistes assurent, eux, que l'hyperinflation ne se résoudra pas sans véritable changement de la politique économique et monétaire du pays.
C'était donc un reportage de Julien Gonzalez à Caracas. Édouard Charles, c'est un cas d'école pour vous qui travaillez sur l'inflation. Là, vous avez un beau cas, comme diraient les médecins.
En effet. Donc le Venezuela est en situation d'hyperinflation. Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que quand vous avez cette boucle entre les prix et les salaires, avec les entreprises qui répercutent les hausses de prix et les salariés qui font augmenter leurs salaires, c'est difficile à stopper. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que cette dynamique complètement déstabilisatrice des prix s'est mise en place? Donc il y a plusieurs raisons. Et l'une de celles-ci, c'est la monétisation du déficit public, c'est-à-dire la planche à billets. Donc ça me permet de revenir de faire le pont sur ce qu'on avait dit au début de l'émission lorsqu'on parlait de l'Europe. On disait voilà, il y a des pressions déflationnistes en Europe ou désinflationnistes. Comment est-ce qu'on peut avoir des pressions désinflationnistes dans un pays alors que on voit par ailleurs que l'inflation est difficile à contrôler? Une des recettes qui a été envisagée, qui a été discutée au moins de manière informelle parmi des économistes pour sortir de la trappe à liquidité en Europe, c'est la monétisation du déficit public. C'est la planche à billets. Et le principal argument contre l'utilisation de cet outil, c'est que on peut en perdre le contrôle. Voilà, c'est une ligne rouge qui caractérise plutôt des pays qui sont en situation d'hyperinflation. Et quand la boucle est lancée, elle est extrêmement difficile à arrêter. Donc le Venezuela est un contre-exemple en quelque sorte.
Agnès Benassiquéré, très brièvement, parce qu'on arrive au terme de cette émission. On entendait une dame dans ce reportage de Julien González dire que elle thésaurisait quelques dollars dès qu'elle le pouvait. De facto, la population est en train d'abandonner la monnaie nationale.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle une dollarisation de facto. C'est-à-dire que c'est pas officiel, mais la monnaie valant de moins en moins, évidemment, les personnes se tournent vers une autre monnaie. La plus proche, c'est le dollar. Bon, les nouvelles qui nous parviennent du Venezuela sont absolument catastrophiques. Ça fait penser à une économie de guerre, hein, de pénurie généralisée, de spéculation, où le contrôle de prix, on voit, est l'objet d'une corruption importante. Et on voit aussi que l'inflation, ça c'est un élément dont on n'a pas parlé, l'inflation c'est aussi une cause d'augmentation énorme des inégalités dans un pays. Parce que vous avez les gens qui arrivent à s'en sortir, ceux qui ont accès au dollar, ceux qui ont des revenus qui peuvent être éventuellement indexés sur l'inflation, et puis les autres. Et donc c'est aussi important pour une banque centrale, hein, pour maintenir la cohésion dans un pays, la stabilité des prix, c'est un élément très très important. Maintenant, comment sortir de là? Enfin, toutes les institutions sont à terre, hein, en Venezuela. Donc sans une reconstruction démocratique du pays, la Banque centrale est un élément parmi d'autres, mais la Banque centrale, même un super président de Banque centrale, aura du mal à vaincre l'hyperinflation aujourd'hui au Venezuela.
Et ce sera une autre émission, Agnès Benassiquéré, parce que nous n'avons que 47 minutes. Donc cette émission est maintenant terminée. Merci à vous deux, Agnès Benassiquéré et Édouard Chal, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous retrouverez les références des livres de nos deux invités sur le site internet de RFI à l'onglet émission où vous pouvez nous réécouter. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Pure Radio. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.